Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ils ont pour nom Philippe Lacombe, Besocel, Bonnory, Pico de la Pérouse, ou bien encore Émile Cartaillac ou Eugène Truta. Ils sont préparateurs, naturalistes, botanistes, préhistoriens. Savants connus et reconnus ou hommes de l'ombre. Mais à Toulouse, ils sont de ceux qui ont écrit l'histoire du Muséum de sciences naturelles. Ils en furent des acteurs, passionnés. Ils en sont toujours la mémoire vivante. Conservateur, gestionnaire des collections, Pierre Dallous est aujourd'hui l'un de ces hommes qui écrivent ici et là quelques pages de l'histoire de ce muséum. Il y a quelques années, au cours d'une de ses émissions Mémoire 2, et dans un muséum définitivement entré dans le XXIe siècle, il faisait revivre pour nous la mémoire toujours présente de ces hommes du passé.
Vous savez, ce qui fait la richesse d'un musée, ce sont ses collections. Et ces collections sont un témoignage et sont la mémoire, à la fois des objets, mais mémoire aussi des hommes qui ont constitué ces collections. Et quand je suis arrivé au muséum, je n'avais pas, il y a une trentaine d'années, je n'avais pas de bureau, je travaillais à la bibliothèque et j'avais derrière moi toute une série de bustes d'hommes très dignes et j'étais un peu inquiet de voir ces gens qui me surveillaient. Et je me demandais, mais qui étaient ces hommes-là ? Petit à petit, bien sûr, j'ai appris à les connaître. Et bon, je me suis rendu compte que c'est eux qui ont fait le muséum, qui en ont fait la richesse et la notoriété.
Certains sont bien connus, nous l'avons dit. Pico de la Pérouse, Émile Cartaillac, Henri Gossens. D'autres, pour les néophytes dont je suis, sont d'illustres inconnus. Ils s'appellent Lacombe, Besocel, Bonnory. Qui étaient-ils ? Quels sont leurs liens avec le muséum ? Que nous ont-ils laissés ? Que savons-nous aujourd'hui de leur vie ?
Alors c'est une histoire assez de famille, j'allais dire. Au moins entre Bonnory et Lacombe. Bonnory a été un des préparateurs très productif des collections du muséum. Ça se déroulait dans les années, à la fin du 19e siècle, puisqu'il était préparateur de 1868 à 1907. Il a fait beaucoup, il a beaucoup œuvré pour les collections et il avait comme apprenti un jeune garçon qui a travaillé dès l'âge de 14 ans avec lui dans son cabinet qui s'appelait Philippe Lacombe. Philippe Lacombe a pris la succession de Bonnary et bien qu'il ait eu un cabinet de taxidermie privé, il a œuvré en grande partie et prioritairement pour le muséum de Toulouse. Ça a été donc deux grands préparateurs qui sont à l'origine de l'ensemble des collections que possède le muséum. L'ensemble des grandes naturalisations des grands mammifères, de l'éléphant, mais aussi vous avez des chats, des chiens, des lions, ce sont ces deux hommes qui les ont préparés, essentiellement Lacombe. Alors, c'est l'histoire parce que ça c'est amusant parce que Lacombe s'est marié avec la fille de Bonnory. Ouais, c'était des hommes, rien qu'on voyait leur image. À la fois, très sérieux, mais on voit dans leur regard une intelligence et un savoir. C'était des grands naturalistes parce qu'ils n'avaient pas du tout la documentation que l'on peut avoir aujourd'hui. Quand on vous ramenait un objet, vous dites, oh, ça ressemble un peu à un kangourou, ou bien là, c'était libre cours à un peu à l'imagination, à des connaissances anatomiques pour essayer de refaire un objet qui ressemblait à ce qui pouvait être. Alors, il y avait cette connaissance, et puis il y avait des connaissances des matériaux. Lacombe, par exemple, a fait l'éléphant. Quand on naturalise un animal, on fait une sculpture. Il a mis au point une nouvelle technique avec des structures en liège, qu'il a décrit d'ailleurs. Et il a pu construire comme ça de nouvelles collections. Et il faisait ça très sérieusement. Et ses préparations étaient de très bonne qualité, puisque j'allais dire que 90% des collections d'animaux naturalisés que l'on possède ont été préparées par eux et sont quand même en très bon état, malgré un siècle, plus d'un siècle.
C'est
c'était presque des autodidactes enfin, là, au départ.
Vous savez, on apprenait, on testait. Alors c'était très rigolo parce que les recettes étaient secrètes jusqu'à il y a peu de temps. Les apprentis, on leur disait va me chercher ça, et pendant ce temps on faisait des préparations, puis on disait maintenant tu passes ça sur cette peau, tu fais ça. C'était un peu secret, mais après l'apprenti était accepté et allait succéder, il y avait cette transmission qui se faisait.
La corporation, on dit.
Ah oui, tout à fait, oui. Et en plus, pendant ces périodes-là, les préparateurs tenaient un journal où on rentre pratiquement dans leur intimité, notamment pendant la période de la guerre, où on avait toutes les gens qui allaient chercher les tickets restaurants. Vous vous rendez compte, on en est les tickets de rationnement et qui est distribué. Mais vous voyez, à certaines dates, mort de ma fille, ainsi de suite, et après naturalisation, ça enchaîne. À la fois, on a le côté professionnel, mais aussi un peu le côté vie privée des personnes.
C'est très émouvant. C'est vraiment toucher du doigt la réalité.
Oui, tout à fait. Et puis vous avez des factures de recherche, de nouveaux produits, des recettes.
Donc c'est toute la vie du muséum.
Vraiment, personnellement, là, comme une Bonnerie, c'est ce que j'apprécie le plus en tant que gestionnaire de collection. Et je veux dire, toutes ces préparations qui sont parmi les objets les plus sensibles que l'on doit conserver, forcément, on a dû s'intéresser au mode de préparation qu'ils faisaient, au type de travail qu'ils faisaient. Bon, vraiment, pour eux, j'ai une affection toute particulière.
En vous écoutant, je me disais que les archives n'avaient rien de mort et que les archives étaient excessivement vivantes.
Les archives sont très vivantes. Le tout, c'est de les faire parler, c'est de les retrouver. Alors pour nous, c'est un gros travail que nous entamons depuis la rénovation du muséum. Et nous tournons justement sur la documentation de ces collections, la recherche des archives. Et faire parler les archives, c'est une enquête policière. C'est reconnaître les écritures. C'est rechercher dans notre mairie. Mais est-ce que vous avez quelqu'un qui s'appelait un tel? C'est comme ça qu'on fait des recherches. Et c'est passionnant, ça prend beaucoup de temps. Pas se faire d'illusions. Alors, ça ne fait pas partie encore de nos propriétés, priorités, mais d'abord, nous essayons d'identifier les lots, de les rattacher à des personnes et de retrouver toutes les archives liées à ces personnes-là.
Philippe Isidore Picot de la Pérouse est l'un de ces grands hommes qui ont fait l'histoire du muséum de Toulouse.
Philippe Picot est né à Toulouse, tout simplement, en 1744. Et c'était un passionné d'histoire naturelle, comme tous les gens qui sont ici d'ailleurs. D'une famille assez aisée, qui l'a poussé plutôt, non pas vers les sciences, mais vers la magistrature. Et c'est comme ça qu'il est devenu avocat, mais pas avocat de n'importe quoi, avocat des chambres des eaux et forêts. Donc il a gardé quand même un pied dans l'histoire naturelle. Par contre, ensuite, il a hérité de son oncle, le baron de la Pérouse. Il a hérité de sa fortune, de son titre, donc c'est devenu Philippe Picot de la Pérouse. Et là, il a pu se consacrer à sa passion, qui était l'histoire naturelle. Alors, il a amplifié ses travaux, qu'il avait déjà débutés, sur diverses sciences, notamment la botanique, la minéralogie, mais aussi il a fait de la paléontologie, puisqu'il a décrit ce qu'on appelle aujourd'hui des rudistes, qui sont des organismes fossiles, récifaux, qui constituent par exemple ce qu'on appelle la montagne des cornes, à côté de Narbonne, et il a décrit énormément d'espèces, beaucoup de botanique, bien sûr, avec la description d'une flore, des herbiers magnifiques, des dictionnaires sur les oiseaux, une grosse collection de minéralogie, avec des ouvrages aussi, les mines et forges du comté de Foix. Donc c'était vraiment un passionné de sciences naturelles, tellement passionné que c'est lui qui a été à l'instigation de la création du Muséum d'histoire naturelle. Cet homme, on est à la période de la Révolution et lors de la Terreur, il est parti en prison pas très longtemps, mais enfin il y a passé un an et demi. Mais ensuite il revient au premier plan, il devient maire de Toulouse, et de par sa position, je pense, il a obtenu de Napoléon que les bâtiments du nouveau, les bâtiments de l'ancien Carme des Chaussées, du couvent de Carme des Chaussées, soient attribués à la ville pour créer le Muséum d'histoire naturelle.
Donc, si je vous comprends bien, Picot de la Pérouse, c'était un homme qui était en prise avec la vie de la cité.
Ah, tout à fait. C'était un homme, puisque, bon, je veux dire, en tant que maire, il était très préoccupé, je veux dire, par l'éducation. À tel point qu'il était professeur à l'Académie à l'École des Mines, à Paris. Mais il a créé à Toulouse ce qu'on appelait l'École des Sciences et des Arts, qui est l'ancêtre de l'Université Paul Sabatier. Ce qui a été peut-être un peu un des malheurs pour le muséum, puisqu'à cette époque-là, il a dit bon, mais mes collections, j'en amène une partie à cette école, et sélection, il n'a pas attendu que le muséum soit créé avant de les déposer. Et quand il est mort, malheureusement, le muséum n'était pas créé, et le projet du muséum est tombé un peu dans l'oubli. C'est-à-dire, s'il a été l'instigateur du muséum, son besoin, je veux dire, de faire partager les sciences a retardé un peu l'ouverture du muséum, la création du muséum en tant qu'établissement.
Les sciences naturelles au XVIIIe siècle, c'est l'époque de la grande explosion de ces sciences. Et il est dans la lignée de Buffon, par exemple.
Je veux dire, c'est quelqu'un quand même qui a été qui était un naturaliste régional, qui a beaucoup œuvré dans les dans la région pyrénéenne, qui a été, alors certains disent, un mauvais botaniste. J'aime pas du tout ce terme. Ouais. C'était un botaniste qui était jaloux de ses Pyrénées. Et je pense qu'il a essayé un peu de s'approprier beaucoup de choses, certainement au détriment d'une qualité scientifique. Mais par contre, grâce à lui, il a fédéré beaucoup d'énergie, justement dans cette science-là, qui est en botanique. Et c'est ainsi que par la suite, il y a eu beaucoup de botanistes qui ont œuvré dans la région pyrénéenne. Mais bon, il y a eu beaucoup de polémiques, et je veux dire, il est mort très déçu de ça. Ouais. Mais je pense que c'était quelqu'un qui quand même devait avoir beaucoup d'ego et voulait s'approprier et a tué certaines choses. Puis je pense que c'est des gens aussi, il faut savoir qu'à l'époque, les voyages n'étaient pas faciles, ils avaient beaucoup de correspondants. Et les gens leur apportaient des échantillons, je pense que c'est beaucoup comme ça aussi qu'il a œuvré. Mais avec Ramon de Carbonnière, il y a eu des batailles terribles.
Vous nous dites donc un esprit excessivement curieux, avide, celle qui s'intéresse à une multitude de domaines.
Voilà, tout à fait. Mais vous savez, à l'époque, on les appelait des savants, c'était des érudits. On a l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, on a l'impression qu'on n'avait pas besoin de se spécialiser. Ouais. Actuellement, vous avez des scientifiques qui sont très forts, mais qui sont très forts dans un domaine très précis. Et à côté,
oui,
ils ne savent rien.
Aussi, la science est tellement...
Oui, mais bon, à l'époque, donc il n'y avait pas cette obligation. On a l'impression, donc, c'était des gens qui étaient pluridisciplinaires. Ça, il n'y a pas de doute. Quand vous voyez Jean-Baptiste Noulet, qui a été directeur du muséum, qui est, je crois, né en 1802, c'est quelqu'un qui a fait de la botanique, oui, qui a fait on a un herbier de Toulouse, de Jean-Baptiste Noulet. Il a fait 9 flores. Il a travaillé sur les mollusques du bassin sous-pyrénéen. Il a travaillé sur les mollusques fossiles aussi. Et puis quand même, en 1851, il a travaillé sur le vallon de l'Infernet, qui est à Clermont-Ferrand, où il a ramassé énormément d'outils préhistoriques, de même que des restes de faune. Et il défendait la présence de l'homme, hein, comme Boucher de Perthes l'avait présenté. C'était quand même, c'était des gens qui étaient pluridisciplinaires avec, je pense, des omniscients, je dirais presque.
Émile Cartaillac. Alors tout d'abord, lui, quel est son lien avec notre région, et puis quel est le lien avec le muséum, parce que je crois qu'il n'est pas originaire de Toulouse ou de la région.
Je veux dire, non, il est né à Marseille en 1840. C'est le sud, mais surtout il a des origines auvergnates. Il a des origines auvergnates, ce qui fait que il s'est très vite intéressé, revenu dans la région. Il s'est très vite, alors lui aussi, hein, c'était vraiment un homme de terrain, un naturaliste, il s'est très vite intéressé au dolmen, au dolmen de l'Aveyron. Et très jeune, à tel point que je pense qu'il devait avoir une vingtaine d'années, il travaille déjà au muséum en tant qu'attaché. Et donc il a énormément publié sur les dolmens de l'Aveyron. Et par la suite, il s'est penché sur l'art paléolithique. Et il a notamment, alors c'est assez rigolo parce qu'il était très sceptique à l'époque, travaillé sur la grotte d'Altamira avec des dessins remarquables qu'il a mis en doute fortement. Et ensuite, il a publié d'ailleurs un mea culpa. Et il a travaillé et formé l'abbé Breuil. Alors vous trouvez au muséum d'ailleurs tous les calques, les relevés d'Altamira, mais aussi il a travaillé dans beaucoup de grottes, je pense à Garcas, Marsouglas. Et il a été bien sûr un des conservateurs du muséum. Alors à l'époque c'était conservateur en anthropologie, puisque c'était à la fois anthropologie mais aussi préhistoire paléontologie.
C'était un homme donc d'une grande probité intellectuelle pour pouvoir se remettre en cause.
Oui, bah, je pense que les... on s'éloigne. Ah, vous savez, les sciences avancent, il y a peut-être ce côté moins égocentrique qui apparaît, cette remise en question. Puis la préhistoire, je dirais, bouillonnait dans la région. Il y avait énormément de préhistoriens de part. Vous savez qu'on dit souvent que Midi-Pyrénées est le berceau de la préhistoire. Donc il y avait des découvertes tous les jours, il y avait de fortes personnalités qui travaillaient autour de ces problèmes-là. Donc il y avait des affirmations, mais c'était quand même des gens qui savaient se remettre en question. Et c'est toujours bon pour un scientifique d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Mais je pense que là, on a parlé un peu d'un botaniste, d'un préhistorien, de préparateur. Il y a aussi des personnages qui ont été plus des voyageurs. Je pense à Gaston de Roquemorel, qui lui a navigué avec Dumont d'Urville, c'est le second Dumont d'Urville, dans les grandes expéditions, notamment au bord de l'Astrolabe et de la Zélée, et qui étaient donc deux navires qui ont fait plusieurs expéditions et qui avaient comme objectif de faire des relevés géographiques, mais aussi des prélèvements d'histoire naturelle, mais aussi des cultures. Et c'est comme ça que, pareil, dans les années 1850, Gaston de Roquemorel a déposé énormément d'objets au muséum, des objets provenant notamment d'Océanie. Et c'est pour cela qu'on a un fonds très riche en collection ethnographique d'Océanie. Mais c'est ce qui marque quand on dit Gaston de Roquemorel, hop, la collection de Roquemorel, c'est l'ethnographie océanienne. Non, il n'y a pas que ça. On a un très grand fond aussi de coquillages qu'il a ramené lorsqu'il faisait ses prélèvements. Et un très grand fond, très important, de coquillages, notamment du Pacifique et de l'Océanie. Premier conservateur du muséum, Eugène Truta, le musée a ouvert en 1865. Alors on pensait à l'époque que, vu le travail qui a été fait antérieurement de préparation, il n'y avait plus qu'à gérer l'ensemble des collections et que c'était quelque chose d'assez simple. A tel point donc qu'il n'y avait plus de directeur, mais il y avait un conservateur qui a assouvi sa passion sans trop de contrôle. Et grâce à ça, on a quand même tout le témoignage qu'il a apporté de par sa passion donc pour la photographie. Parce que Eugène Truta avait quand même, bien sûr, il a amené certaines scènes de la vie de tous les jours, mais il a beaucoup travaillé aussi sur les paysages, avec un regard, peut-être un regard de naturaliste, puisque bon, ce sont encore des photographies qui servent pour connaître l'évolution des paysages, l'évolution des glaciers. Donc il a mené comme ça, avec un regard, je veux dire, très particulier, à la scientifique, tout en étant esthétique, parce que c'est vrai, c'est que ces images sont remarquables, mais il n'y a pas que ça, il y a certains angles, il y a un travail, et on voit bien que, je veux dire, grâce aux angles de vue qu'il prenait, on arrive bien à voir l'évolution, des paysages, de la forêt, des pâturages. Donc ça c'est très intéressant.
La science ne vit pas toute seule, hein. Il y a toujours des passerelles. Hein.
Tout à fait. Mais il a été tellement pris par ce travail photographique que la ville s'en est inquiétée et a vite nommé un directeur, qui était donc Jean-Baptiste Noulet, dont nous parlions tout à l'heure, pour le chapeauter, dire attention, il y a aussi des collections, revenons-y.
Pierre Dalouche, je voudrais que nous terminions avec...
Victor Bezosel, c'est un docteur, je plains ses patients, parce que je pense qu'il devait s'occuper plus de sa passion que de ses patients. Victor Bezosel habitait à côté de Portet-sur-Garonne, et il était passionné par les oiseaux, il a constitué une collection énorme qu'il a donnée en 1920, je crois, au muséum. Et bien sûr, il avait des correspondants, mais il allait beaucoup sur le terrain. Il préparait lui-même ses taxidermies. Il a correspondu avec beaucoup de grands ornithologues d'Europe entière. Et c'était une personne, j'allais dire, pour la première fois dans l'histoire de nos collections, qui avait vraiment une description scientifique de chaque spécimen. Et il ramenait les informations qui aujourd'hui nous paraissent les plus intéressantes, ce que ne faisaient pas toujours ses prédécesseurs. Donc c'est vraiment des collections qui sont tout à fait exploitables, accompagnées de cahiers de terrain, mais aussi de remarques très, très critiques. C'est-à-dire que les collections reflètent l'histoire des sciences. Et à l'époque, la problématique était essentiellement une problématique descriptive. C'était d'avoir ça, est-ce que c'est la même espèce que ça. Donc c'est pour ça que quand vous allez dans un musée très souvent, vous avez des séries de merles, vous avez 20 merles. Mais vous vous dites, pourquoi on a 20 merles? Mais c'est que vraiment, ces gens-là, et souvent ils ont eu raison, se posaient des questions en se disant, mais attendez, le merle qu'il y a à Toulouse, est-ce que c'est le même merle qu'il y a, je ne sais pas moi, à Saint-Gaudens? Donc voilà, il y avait plein de sujets comme ça, de discussions. Alors entre scientifiques, ils échangeaient les informations, et c'est pour ça qu'on a énormément de descriptions d'espèces et de sous-espèces. Alors des fois, vous savez, mais ça continue des fois. Et je pense que c'est une collection qui apporte un témoignage très vrai de la biodiversité des oiseaux qui existaient dans la Haute-Garonne. Et donc ça, c'était en 1920, donc c'est beaucoup plus récent. Mais j'allais dire que l'histoire se continue, et elle s'écrit encore tous les jours à partir de... Enfin, elle se construit tous les jours. Et je veux dire, on a encore des collections très importantes qui arrivent. Dans les années 2000, on a quand même fait l'acquisition d'un personnage qui est très connu à Toulouse, qui est un Paul Sabatier. Et on a ainsi acquis sa collection de minéralogie, qui n'est pas une collection importante, même qui scientifiquement n'a pas trop d'intérêt, mais quand même elle fait partie de l'histoire de Toulouse. Elle fait vraiment partie du patrimoine. Donc quand on a acquis cette collection, en plus accompagnée de certains cahiers de laboratoire où il décrivait ses expériences de chimie, c'est quand même émouvant. C'est le seul prix Nobel qu'on a à Toulouse. Ouais. Mais encore plus récemment, je crois que c'était en 2004, on a fait l'acquisition. Il s'agit d'un leg. Alors, ce n'est pas d'un prix Nobel, mais c'est une personne qui a eu le prix Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel dans les mathématiques, qui s'appelle Laurent Schwartz, qui a légué au Muséum de Toulouse une énorme collection de sphinx. Alors, ce sont des papillons de nuit. Donc c'est quand même des fortes personnalités, des grands hommes, ça, un peu moins. Mais il y a aussi des hommes peut-être qui ont eu moins de reconnaissance, mais qui ont construit des collections qui pour nous ont une grande valeur, puisque vous savez, un ensemble d'objets a un sens quand il a été justement constitué pour une raison. On a encore, pas tous les jours, j'exagère, mais on a énormément de fonds comme ça qui rentrent, qui ont été constitués dans des objectifs très précis et qui font la richesse des collections de musées.
La semaine prochaine, nous retrouverons d'autres conteurs avec d'autres histoires.